1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché à Curie, au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer, partout où il se rend, l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
C'est à bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, magazine d'info tous les mardis de 19 à 20 h. Ce soir, je suis avec Steven. Bonsoir Steven.
Ah, c'est bon ? Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Ça va ?
Bon, ça va nickel, hein. Toujours un plaisir de revenir.
On écoutera dans l'émission ton reportage sur une soirée organisée par Mémoire Plurielle. C'est une association orléanaise qui... une association régionale qui travaille à la valorisation de l'histoire de l'immigration, ou plutôt des immigrations, en région Centre-Val-de-Loire. C'était jeudi.
C'était jeudi 28, c'est ça.
Un reportage écouté dans l'émission. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et nous accueillons Anaïs. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
De la rédaction étudiante de Radio Campus Orléans, venue voir comment ça se passait le mardi et pourquoi pas venir de temps en temps avec nous, hein, c'est ça. En tout cas, sois la bienvenue pour cette émission-ci. Nous parlons, pour démarrer l'émission, avec Mourad Guichard, de deux sujets. Nous allons parler d'un poisson d'avril fait par le président de l'Université d'Orléans et qui a fait marcher nos amis de la République du Centre. Et puis nous revenons également sur l'histoire de... Vous savez, on en a parlé il y a 15 jours du policier municipal orléanais, tatoué avec des tatouages nazis. Il y a eu débat lors du conseil municipal de la semaine dernière. Mourad nous en parle juste après le jingle que voici.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Nous démarrons ta chronique du jour avec cette blague du 1er avril et du poisson qui va avec. Un courrier du président de l'Université d'Orléans adressé aux étudiantes et étudiants et au personnel de l'université informant de la présence sur le campus d'Orléans d'athlètes australiens pendant les Jeux Olympiques. Nos confrères de la République du Centre ont publié l'info quelques jours avant, le 1er avril évidemment, sinon c'est pas drôle. Outre que c'est plutôt drôle, ça amène quand même quelques réflexions, Mourad.
Oui, alors c'est comme à son habitude, en fait, le président de l'Université d'Orléans, Éric Blond, a lancé, mais comme il le fait chaque année, un poisson d'avril, voilà, en direction de tous les personnels, effectivement, et tous les étudiants. Alors, on peut apprécier ou pas apprécier. C'est comme ça. Il a posté ce message, donc disant que des Australiens, des nageurs australiens allaient venir, sur le campus et qu'il y a d'avoir des règles particulières qui vont obliger les étudiants à avoir un laissez-passer, que la police australienne allait venir épauler la police française de façon à assurer la sécurité, enfin toute une série de choses assez incongrues en fait qui montraient que c'était un poisson d'avril. Alors pourquoi a-t-il été posté le vendredi? Simplement parce que en fait Éric Blond tient à ce que il y a un respect en fait du repos numérique, hein. C'est-à-dire que on n'envoie pas de mail, c'est son credo, on n'envoie pas de mail en dehors des heures de travail. Donc il a envoyé ce mail le vendredi, puisque le lundi 1er avril, jour du poisson d'avril, tombait un jour férié exceptionnellement, donc il l'a posté le vendredi à 15h. Dès 19h, donc on imagine qu'il y a une petite latence entre le moment où la République du Centre reçoit l'information, je ne sais pas par quel biais, mais enfin, j'imagine que quelqu'un leur a envoyé, et le moment où le papier sort, c'est-à-dire à 19h, on imagine qu'il n'y a pas eu tant de vérifications que ça. Et donc, ça sort au premier degré, c'est-à-dire que le papier sort de manière complètement informative. Il n'y a pas de recul, il n'est pas précisé du tout que c'est un poisson d'avril, que c'est une blague, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la règle journalistique veut que les poissons d'avril ne peuvent sortir qu'entre minuit et 23h59, le 1er avril.
Tout à fait.
Jamais, au grand jamais, on ne sort une blague de type 1er avril en dehors de cette date précise. Et donc, l'ARET non seulement sort le papier, donc alors je ne vais pas citer l'auteur pour être un peu sympa, sauf que ce n'est pas un stagiaire, hein, c'est quand même un directeur de rédaction, et qui le sort donc dans la version numérique le vendredi soir, et qui le sort en version papier le lendemain. Le samedi. Et donc, c'est une information tout à fait avérée, tout à fait claire, et ils précisent même dans leur papier, dans ces deux papiers, selon nos informations. Sous-entendu qu'ils ont enquêté ou qu'ils sont allés à la pêche aux informations. En fait, comme tu l'as dit, il s'avère que c'est un poisson d'avril et que la REP est tombée dans le panneau. Et donc, ça prouve alors deux choses un peu embêtantes, un peu inquiétantes pour le journal local. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne vérifient pas leurs informations. C'est un fait, c'est factuel. Ils n'ont pas vérifié cette information. Et en plus, il y a une espèce de méconnaissance du terrain, puisque il a été fait allusion dans le mail d'Éric Blond qu'ils allaient squatter à certaines heures les alentours du lac, vous savez, la pièce d'eau, oui, là, qui se trouve sur le campus. Oui. On sait qu'elle est complètement asséchée, c'est impraticable, donc il n'y a pas de raison de pouvoir croire à ce bobard, et ils ont été très rapidement, et c'est ça qui est très étonnant, c'est que très rapidement sur Facebook, notamment le vendredi soir après la publication du papier, ils ont été alertés par plusieurs internautes internautes éclairés qui ont signalé que c'était un bobard, hein, que c'était un poisson d'avril, et pour autant, il n'y a pas eu d'excuses, les excuses sont arrivées le lundi en fait.
Oui. Alors, justement, là, dans l'émission, nous avons des étudiants et étudiantes qui souhaitent embrasser le journalisme. Voilà, là, tu en as parlé, vérification absolue, mais il y a d'autres enseignements peut-être à tirer de ça ou pas, pour toi, selon toi?
Oui, c'est le béaba, la vérification de l'information. Il aurait simplement fallu passer un coup de fil ou envoyer un SMS au président de l'université, c'est-à-dire pour tout le monde. Enfin, pratiquement tout le monde dans le milieu à son numéro de portable. Donc, ça aurait été très, très simple d'envoyer un SMS, de vérifier l'information. Ils ne l'ont pas vérifié, donc c'est une première faute. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'au même moment, et vous pouvez aller vérifier, au même moment, la REP lançait un jeu concours pour aller débusquer les fake news du 1er avril, donc du poisson d'avril, des informations réelles. C'est-à-dire qu'eux-mêmes alimentent quelque chose qu'ils dénoncent. C'est-à-dire qu'ils se donnent, ils s'érigent en donneurs de leçons. C'est-à-dire que, allez, on va faire un jeu, on va vous apprendre à différencier des fake news, des vraies informations. Et eux-mêmes plongent, mais en plus du 1er avril. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a même un poisson d'avril sur le bandeau. Donc c'est juste tragique, quoi. C'est un crash comme on en voit pas souvent. Hein. C'est moi, enfin. La critique média, c'est l'un de mes créneaux. Enfin, c'est même mon dada.
Tout à fait.
J'observe, je regarde, j'écris dessus. J'ai rarement vu un crash pareil. Là, tout est réuni pour montrer que ben là le taf n'a pas été fait. Et je le redis, mais pas par n'importe qui, par un responsable éditorial. Et ça montre la faiblesse du processus. À son époque. L'ancien patron de la République du Centre, j'avais fait un papier pour le Canard enchaîné sur un problème interne de déontologie, enfin bref. Et Camus, l'ancien patron de la République du Centre, nous avait fini par nous dire, parce qu'on avait travaillé à deux dessus, nous dire que en fait, il ne vérifiait pas systématiquement le contenu de leur journal avant le bouclage. Et là,
comment c'est possible ça? D'après toi, vraiment.
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment de la légèreté.
D'accord.
C'est de la légèreté et c'est quelque chose qui devrait normalement se régler, mais qui ne s'est toujours pas réglé. Là, je vous parle. Quand je parle de Camus, c'était il y a 20 ans.
Oui, bien sûr. Oui.
À peu près. Enfin, un petit peu moins, 15 ans. Mais voilà, on en est toujours au même point. Au même point. Il y a, et j'y reviens comme à chaque fois, il y a toujours ce problème. De refus de l'autocritique, ce refus de la critique et cette absence de remise en question. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il vous suffit d'aller voir sur le site internet, quand ils présentent des excuses, c'est pas du tout « nous aurions dû vérifier l'information », ça, ils sont incapables de l'écrire. C'est, en gros, c'est la faute à Éric Blond qui nous a induit en erreur, alors que c'est pas du tout le cas. Éric Blond a juste fait voilà, un truc un peu potache. Ça n'avait pas vocation à apparaître de cette manière-là, de manière informative, dans les colonnes de la République du Centre. Ouais.
Deuxième sujet, nous revenons sur l'affaire du policier municipal orléanais avec un tatouage nazi. Nous en parlions ici même il y a 15 jours. Il y a eu un débat lors du dernier conseil municipal. Questionné par l'élu d'opposition Emmanuel Duplessis, le maire d'Orléans Serge Grouard a répondu sur la forme et le fond.
Sur la forme, soyons très clairs. Que vous vous interrogiez et que vous alertiez, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est tout à fait normal. Je suis très clair là-dessus. Maintenant, dans la manière dont les choses ont été faites, là je m'interroge. Vous connaissez ma rigueur, notamment sur ces questions-là. Vous savez très bien que je ne transige pas. Pourquoi ne m'avez-vous pas saisi? Qu'avez-vous fait? Sans preuve, et vous venez de le dire d'ailleurs, sans certitude, avec des éléments d'interrogation, vous avez livré en place publique cette personne. C'est ça qui a été fait. Mais si, bien sûr, puisque ces photos sont sorties à l'extérieur et elles ont été dans les médias. Ben, j'aimerais savoir qui les a diffusées. Moi, je ne sais pas. Mais je pense que partant de là, moi, je n'aime pas qu'on livre les gens en place publique sans savoir. Sur le fond, nous sommes extrêmement rigoureux. Nous avons diligenté une enquête. Il est complexe, d'ailleurs, de conclure. Et nous aurions pu, d'ailleurs, nous-mêmes, éventuellement, le cas échéant, en fonction des résultats de l'enquête interne, saisir la procureure de la République. Bien évidemment, vous l'avez fait. Très bien. En tout cas, je ne peux pas accepter l'idée de légèreté pour éclaircir cette question. Nous y avons passé et nous y passons beaucoup de temps. Voilà. ça c'est très clair. Et moi, je n'accepte pas, vous le savez, il est hors de question pour moi d'accepter la moindre chose qui aille dans ce sens. C'est pas le genre de la maison, ça n'a jamais été et ça ne le sera pas. Soyons très très clairs là-dessus. Mais maintenant, moi je ne condamne pas sans savoir.
C'est pas le genre de la maison, dit Serge Grouard, Mourad.
Oui, alors chacun son métier, hein. Lui sait pas, enfin il dit qu'il ne sait pas qui a fourni les photos. Moi je sais très bien qui a fourni les photos, je ne donnerai évidemment pas la source. Simplement, alors soit il n'est pas au courant, soit il ment. Il n'y a pas de 3000 solutions, donc je mets les pieds dans le plat. La mairie est au courant au plus haut niveau, est au courant de cette affaire depuis octobre et a décidé de classer l'affaire en octobre. Avant que ça ne sorte au poste, donc le site au poste qui est spécialisé dans ces questions, notamment de violences policières et de rapports à la police et aux armées. Et en l'occurrence, ça a été pris en main par Ricardo Parera. Ricardo Parera est un journaliste, un confrère, c'est pas quelqu'un qui raconte tout et n'importe quoi comme ça a pu être dit dans la suite du propos de Serge Grouard. Donc c'est un journaliste et il se trouve qu'il est spécialisé dans tout ce qui est symbole nazi et néo-nazi. Et d'extrême droite par extension, bien évidemment. Et donc lui a tout de suite repéré ce fameux tatouage. Alors dans la suite de ce que dit Serge Grouard dans cette intervention, il y a une forte, très forte suspicion, voire une accusation de traquer, de poursuivre ce policier pour avoir une photo à la fois en uniforme, à la fois en civil. Absolument pas.
En tout cas, moi je l'ai entendu comme ça. Je l'entends comme ça. Oui.
Oui, absolument. Le hasard est total et complet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous, me direz-vous. Mais enfin, là, c'est un hasard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chaque fois, les deux fois où les photos ont été prises, c'est parce que l'œil a été attiré par justement ce fameux tatouage. Et donc, ça a été une œuvre de salubrité publique de prendre cette photo. La mairie, prévenue au mois d'octobre, donc comme je vous le disais, a plié le dossier en acceptant à 100% les explications dont je vous parlais la semaine dernière, c'est-à-dire que c'était un symbole viking, je ne sais quoi, que patati, que patata. Et là, c'est parce que c'est sorti dans la presse, mais c'est tout le temps comme ça, hein, parce que c'est sorti dans la presse que Serge Grouard dit que ça l'occupe énormément, qu'il vérifie, que patati, que patata, mais sauf que il accuse. Donc là, c'est ce qu'on appelle, et je le dis vers nos camarades de jeu, futurs journalistes qui sont dans le studio, c'est une inversion en fait de la charge. C'est-à-dire que, alors qu'on devrait dire, bah non, un policier municipal ne peut pas se balader avec des tatouages de cet ordre-là, il a fait effacer ou qu'il a dit qu'il allait les faire effacer, on ne peut pas inverser la charge en disant que c'est la faute des conseillers municipaux d'opposition qui n'ont fait que reprendre et qui ont été alertés uniquement au moment de la publication de ce fameux article de Ricardo Parera, on ne peut pas inverser la charge en disant que c'est la faute des conseillers municipaux d'opposition et qu'ils attendent à la dignité ou à la vie de ce fameux policier municipal dont le nom n'a pas été révélé d'ailleurs. Hein. Donc je trouve ça un peu gonflé.
Très bien. Alors, dernière chose avant de te laisser, Mourad, le média où tu passes demain soir, hein.
C'est ça. Là, je sors du studio d'enregistrement, donc pour ma nouvelle chronique qui portera cette fois-ci. Alors il y a toujours les tops et les flops, et puis il y a un focus en fait sur David Pujadas et la manière dont il mène sa barque avec des gens comme Caroline Fourest. Et d'autres, Rutel Krief et d'autres, et qui fournit une information que je trouve assez biaisée, alors qu'il donne l'impression à chaque fois de ne pas d'être en retrait, d'être honnête, de prendre du recul sur l'information, alors qu'en fait ce ne sont que des causeries à partir d'une idéologie qui me dérange, notamment sur la question de Gaza. Mais je vous laisserai évidemment écouter. C'est à retrouver sur le Média TV à partir de demain soir vers 20h30.
Vers 20h30, on va aller voir ça. Merci encore une fois, Mourad. On se retrouve dans 15 jours.
Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous.
Anaïs, je me tourne vers toi. Tu es étudiante, tu as reçu ce courrier du président de l'université.
En effet.
Vous étiez, tu as cru à ça ou pas?
Mais alors, je l'ai pas reçu. Je l'ai vu après parce que des amis l'ont reçu et m'ont dit que c'est du n'importe quoi.
Ah, tout le monde a dit c'est du n'importe quoi très vite.
Évidemment.
Hein, bon. Évidemment. Mais ah ouais, alors tu me dis tu ne lis pas le courrier du président de l'université. Non mais il a l'écoute, il a l'écoute là. C'est bien qu'il le sache.
C'était le week-end. Oui, non mais pas lire.
Oui, non mais. Globalement, est-ce que tu, quand tu reçois un courrier comme ça de la part de la présidence ou des hautes instances de l'université, tu ne l'ouvres pas forcément toujours ?
Pas tout de suite, ce n'est pas le premier courrier que je vais ouvrir.
Tu ouvres plus les courriers des professeurs que
c'est ça, exactement. Ben oui.
Monsieur le Président, donc voilà. mais Steven, quand tu étais étudiant, pareil ou pas ?
Alors, moi, je n'ouvrais pas mes mails du tout, donc j'avais déjà ce gros problème là. Mais non, je lisais pas les courriers du président et encore moins de l'administration en général. Hein. C'est vrai. Ouais, moi, c'est les profs, mais, c'est tout ce qui m'intéressait.
Permettez-moi ça, mais vous avez un peu tort parce que de temps en temps, de l'administration, oui, en tout cas, vous passez à côté de certaines choses, je pense, de certaines annonces.
Oui,
à un moment, notamment concernant les bourses, hein, y a eu des étudiants à cette radio qui n'ont pas ouvert pendant quelques temps leur courrier et qui sont passés à côté de propositions.
Après, sur tout ce qui est Crous et compagnie, moi j'y ai travaillé, donc j'avais les infos directement. Enfin voilà, j'étais à la source.
Sur le policier tatoué, Victor.
Oui. Bah, du coup, je regardais un petit peu mon téléphone là, la faire pour voir en fait quel symbole c'est au truc et en fait c'est le symbole du soleil noir.
C'est ça.
Mais ça c'est pas un petit symbole nazi, c'est pas un petit symbole petit symbole nazi ça veut rien dire, mais il y a des symboles qui sont beaucoup plus discrets, qui sont beaucoup plus machin, etc. Là c'était quand même un symbole qui était effectivement à caractère nazi, caractérisé quoi.
Le policier quand il a été reçu par sa hiérarchie a dit c'est pas nazi, c'est viking.
Ah oui, mais bon, dans ce cas-là, j'imagine que si jamais il s'était fait tatouer une croix gammée en énorme sur le torse, il aurait pu dire que c'était hindou aussi, enfin...
Nous sommes d'accord.
Un argumentaire un peu faible.
Hein. Ben, c'est ça. Un peu de musique et on retrouve ton reportage avec Mémoire Plurielle. La musique avec un groupe avec des potes, tiens. Yousra et Brice ont créé ce groupe-là qui s'appelle Babel Blues. Yousra est marocaine, Brice est français, producteur. Et ils font de la musique gnawa, la musique traditionnelle marocaine, avec du rock.
Yeah.
vous ne connaissiez pas Babel Blues, c'est la porte du blues. On a allé découvrir vraiment un premier album en 2020, je crois. Le groupe a été formé en 2018. Ouais, 2020, ils sont passés à Orléans. Yousra qui joue, elle est guitariste mais joue du Gembri. Vous savez, cette guitare traditionnelle, elle fait ça de façon rock, comme vous venez d'écouter. Et Brice qui est producteur et qui est guitariste également, ils ont un énorme succès. Ils ont fait une tournée mondiale et ils sont en train de repartir. Et le prochain album sort au mois de mai, le 10 mai exactement. Il s'appelle Swaken et un extrait à l'instant, Ama, dans À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans. Et Radio Campus Tour.
À Bâton Rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour, tous les mardis de 19h à 20h.
Et nous allons maintenant partir vers... Alors ça se passait où cette soirée? C'était la salle Eiffel.
C'était la salle Eiffel, exactement.
Donc cette soirée, c'était jeudi, hein, une heure dehors. Qu'est-ce qui se passait exactement, dis-nous?
Alors je vais tout vous raconter. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on zoome un peu et qu'on philosophe un petit peu sur nos aïeux et la tendresse.
Oh là.
Ouais. Bon, vous savez, je suis pas un aficionado de la tendresse. Hein.
Oui, non, mais ça, on le sait justement. C'est pour ça que je dis, oh là, tendresse.
Mais je reste quand même un grand amoureux de tout ce qui peut donner tort au système discriminant et émissaire des discours de haine. Ce système surreprésenté, créateur de discorde et d'opposition, générant plus de rage que d'avenir. Lorsque j'émets une critique vis-à-vis de la classe dominante, je pose toujours la question de nos perspectives. Donc, je voulais partager un élément de réponse que j'ai pu observer ce jeudi 28 mars en me rendant à la salle Eiffel pour assister à la représentation d'une pièce intitulée « De l'écriture à la scène, récit de vie ». Une représentation théâtrale proposée par Mémoire Plurielle et le Tivolio Théâtre. L'objectif était de proposer à des personnes allophones de participer aux côtés de personnes francophones à des ateliers d'écriture avec, à terme, une restitution théâtrale. L'idée, c'était de mettre en valeur les histoires personnelles des participantes aux ateliers.
C'était sur des mots-clés que tout le monde a réfléchi, par exemple, sur le mot « femme ». La proposition, c'était, voilà... Et puis, sur voilà, il y a eu des thèmes comme ça, si j'étais président de la République. Oui. Par rapport... Alors, c'était toujours en relation très étroite avec le vécu des personnes. Mmh. C'est-à-dire, c'était pas si j'étais président, je ferais, qu'est-ce que je ferais en tant que président par rapport à mon parcours, ma vie, ce que j'ai souffert, ce que j'ai vécu, ce que j'ai, voilà. Mmh. Ou femme, par rapport au vécu, très important. Mmh. C'était pas des termes comme ça. Moi, je fais pas de sociologie. Mmh. Je fais de l'intimité, enfin du travail, où j'essaye d'aller voir ce que vit la personne intimement, profondément, seule devant sa glace. Hein? Le matin, seule devant sa glace, on ne pense pas comme en journée au travail. Non, voilà, non, c'est pour dire que ça, c'est déjà donc des mots-clés et qui touchent l'intimité de chacun. Du coup, forcément, il y a les sensibilités qui émergent. Et sur les sensibilités, il y a forcément complicité, où là, on commence à échanger, on se pose des questions et on s'intéresse à l'autre en résonance à soi. Et c'est comme ça que la cohésion se fait.
Nous venons d'entendre le
metteur en scène.
Le metteur en scène de cette pièce. Hein.
Oui, exactement. Donc c'est une cohésion, comme vous l'avez entendu, hein, qui a été mise à contribution jusque dans la mise en scène. Bon, je vous décris rapidement le dispositif. Hein. Le public en arc de cercle orienté vers un banc de chaises. Public et comédien et comédienne sont au même niveau. Elles nous ont fait front, car le message ne pouvait se faire avec le filtre de la scène.
Les chaises du début, c'était vraiment pour créer une frontalité. Toutes les femmes sont assises, elles regardent le public, elles affrontent, et en même temps, elles sont toutes là, au même niveau. Et c'est une frontalité, c'est on a des choses à vous dire. On est là pour dire des choses. Et d'ailleurs, ça démarre avec « moi, femme ».
Moi, femme, je voudrais que les hommes apprennent à faire preuve de tendresse. C'était une des phrases qui était citée dans la pièce. Cela peut paraître évident, simpliste, et pourtant très peu de mouvements ostensiblement progressistes laissent une place à cette question. En mêlant et entremêlant leurs récits, elles ont porté une parole qui est essentielle dans un paysage médiatique et politique qui n'accorde pas une très grande place à la question des personnes âgées dans les quartiers et encore moins aux femmes migrantes.
Pour moi, ça s'est passé très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé à la maison, j'ai travaillé sur le stress, j'ai travaillé sur ma posture devant un miroir. Je m'imaginais le groupe public devant moi, et je parlais et tout. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Donc du coup, j'ai pu transmettre ce que j'avais à transmettre. Et là, je me sens vraiment soulagée. Je me suis dit, le message est passé parce que là, les gens ont compris de quoi il s'agissait. Donc c'est mon vécu, mon histoire. Je suis là vraiment pour militer pour la cause des enfants en situation de handicap. C'est vraiment mon cheval de bataille. Je veux vraiment que cette cause avance.
Une des comédiennes de récits de vie. Alors, est-ce qu'elles t'ont dit ce qu'elles ont gardé, ce qu'elles garderaient de cette représentation?
C'est une bonne question. C'est une question que je leur ai posée. Et il y a un truc qui revenait souvent dans les réponses, c'est la fierté de ces rencontres, qui, de prime abord, apparaissent impossibles.
C'est le poil qu'elle a fait. Moi, je trouve ça très bien, parce que ça fait un mélange de gens de quartier. On se côtoie pas forcément. Ressources toi, là, c'est ça qui permet. D'ailleurs, moi, j'ai demandé si on était autorisé, parce qu'au départ, on nous disait c'est pour les émigrés qui vont raconter leur parcours de vie. Et du coup, moi, au départ, c'était un atelier d'écriture. Je me suis dit, mais nous, est-ce qu'on vient s'intégrer? Parce que moi, j'ai pas grand chose à raconter en tant qu'émigré. Et finalement, on nous a dit mais si. Et ça nous a permis déjà de rencontrer des personnes émigrées et de connaître leur parcours. Et puis en plus, les aider pour ce spectacle-là, d'être à côté d'elles, de leur dire ben voilà, on fait ça, on t'accompagne, n'aie pas peur. C'était bien. Et après, ce sont des amitiés qui se font
des pays différents. Il y a des cultures différentes. Moi, c'est pas tellement différent parce que tout ce que je disais quand je parlais, parce que le Chili, c'est un pays qui est très développé, très. C'est ce que moi, ce que j'aime quand je dis, c'est la communication, parler avec les gens et toujours être optimiste, jamais. Quand quelqu'un me dit ça va pas, non, ça va toujours bien, même si ça va mal, quoi. Mais c'est ma devise. Parce que c'est pas évident de partir de son pays comme réfugié, déjà comme réfugié.
J'ai cru reconnaître une voix que je connais, Tita, la grande Tita, non?
C'est ça.
Une Chilienne, grande personnalité de la communauté chilienne à Orléans. À part le metteur en scène et toi, il y avait des hommes dans cette salle?
C'est aussi une bonne question, Hassan. Dis donc, je ne sais pas qui est le brillant auteur de ton texte, je le félicite. C'est aussi une question que je me suis posée et j'ai posé la question donc au metteur en scène et qui va nous en parler.
Des hommes se sont joints au groupe et du coup on les a intégrés. On n'a pas dit non, c'est que pour les femmes. Mais la question c'était toujours le rapport aux femmes. C'est-à-dire la femme, qu'est-ce qu'elle pense d'elle, qu'est-ce qu'elle pense des hommes, et l'homme, qu'est-ce qu'il pense de lui par rapport aux femmes, et qu'est-ce qu'il pense des femmes par rapport à lui. Donc c'était quand même toujours dans cette thématique. Et là, en fait, les hommes ont disparu. Je n'ai pas su vraiment pourquoi. Tout à coup, il y en a deux. C'était un vrai problème de langue française. C'était un Syrien, monsieur Syrien, qui ne parlait qu'anglais ou syrien. Et pour lui, ça a été un peu compliqué. Pour d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, finalement, il n'y a que les femmes qui sont restées. Je crois que la perspective d'être sur scène, en même temps, a fait plus peur aux hommes qu'aux femmes.
Ouais, lutter contre les oppressions, contre la discrimination, c'est un exercice qui n'est pas évident.
Ouais, c'est pas évident, mais pourtant, Bell Hooks disait que nous devons accepter de prendre la responsabilité de lutter contre des oppressions qui ne nous affectent pas nécessairement en tant qu'individus. En manifestant notre engagement pour l'intérêt collectif, nous renforçons notre solidarité en donnant l'opportunité de voir changer des personnes qui hier était réduite au silence.
Ah oui, grand, énorme. Pour certaines, énorme. Pour d'autres, c'est qui étaient déjà plus, qui campaient déjà mieux vocalement, et puis dans l'écriture et dans la prise de parole. Mais quand même, une libération, un truc, grosse appréhension d'être devant un public, et puis tout à coup, ça se libère. Non, c'est, de toute façon, c'est des expériences inoubliables. Hein.
Oui.
Là, ils ont vécu quelque chose qui fait trace.
Alors, c'est vous dites.
Ouais, c'est vrai. En fait, en discutant avec elles, elles dégageaient cette impression de libération, de quasi-émancipation. Témoigner de leur propre culture tout en valorisant leur place dans la société française, elles n'ont rien occulté, c'était super. Les témoignages qu'elles nous ont livrés ont nécessité certes un gros travail d'écriture, mais aussi un gros effort, celui de revivre leur vie.
Et quand je parle de ma mère, c'est quelque chose de très important, bon, le plus important de ma vie. On a eu des mauvais moments, mais la vie c'est comme ça. Et à mon âge maintenant, hein, ça.
T'es encore toute jeune.
Voilà, dans ma tête, je suis très jeune. Et je pense que j'espère pas vieillir, quoi.
Ben, j'espère bien.
Formidable, Tita.
Ah ouais, non, je l'adore. Franchement, ouais. Je vous épargne toute la partie où on a discuté, que j'ai complètement oublié qu'on était en interview, mais c'était super. 20 minutes de
son. Elle t'a fait manger en plus, mais on va y revenir.
Mais ouais, mais, revivre sa vie, c'était pour d'autres faire du lien avec le présent, revivre des événements impliquant de la haine ou de la tristesse.
Ça m'a fait, à un moment donné, j'avais le tract sur la scène, je voulais pleurer, j'ai senti que l'émotion montait, j'ai respiré un coup et tout, ça m'a replongé dans cette enfance, j'ai revécu cette image, voilà cette petite fille qui pleure, je la revois dans son petit coin qui pleure, qui me dit on ne m'aime pas, j'en ai marre de cette vie, je la revois, j'entends ces mots encore résonner dans ma tête comme si c'était encore présent.
Ouais, un mot aussi qui revenait beaucoup, c'était celui de justice. Hein. Prendre la parole leur a permis de rendre justice, de réhabiliter un passé oublié ou méconnu.
Est-ce qu'on t'a dit ce qui allait advenir de cette écriture? Est-ce qu'il y aura des suites
à cette soirée? C'était un gros succès la pièce, hein, mais à l'heure actuelle, il n'est pas prévu une nouvelle représentation, mais ces nouvelles comédiennes-là qui ont émergé avec cette pièce ont déjà demandé à pouvoir rejouer cette pièce.
Très bien.
Et en parlant avec elles, certaines ont même trouvé de nouvelles vocations.
Bien sûr, j'ai envie de la revivre en danse, en chanson, en écriture, en tout. Vraiment. Exactement. C'est rapidement beaucoup.
Vous allez vous lancer dans l'écriture peut-être?
Bah oui, tout à fait. J'ai beaucoup de choses à écrire, à dire. Oui. Quelque chose, j'en ai plein de choses à transmettre. Même par rapport à l'immigration, par rapport au voyage, par rapport au parcours, voilà. De vouloir quitter son pays pour venir ici. Voilà, j'ai plein de choses à transmettre. Ouais, l'accueil en France, le dépaysement, quand on quitte sa famille, c'est un déchirement. L'accueil en France, le parcours pour avoir des papiers, il y a tout un parcours. Il y a plein de choses. Ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est un peu le défi qui nous incombe à tous et à toutes de relever. Avoir l'audace de faire, témoigner pour que les historiens de l'avenir puissent constater l'ignorance portée sur toute une partie de la population qui due porter une infinité de fardeaux, qui eut la patience, la force et la vocation d'insuffler un sens aux luttes d'aujourd'hui. Donc je vais peut-être m'y mettre finalement à la tendresse, hein. Mais avant il faut que j'essaye un truc.
La panada, je ne t'aimerais pas à Chilien, c'est comme un chausson. Je ne sais pas si tu connais.
Ah, j'ai jamais goûté, mais
c'est délicieux.
Ah, oui. Lui, il connaît. Alors
vous avez l'occasion, demandez-les.
Ouais, c'est vraiment, c'est délicieux, les empanadas. Vous connaissiez, non?
Ah oui, 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 bien sûr, ouais.
J'ai jamais goûté, donc je vais m'y mettre.
Bon, ben, très bien. Mais non, mais formidable petit taf et formidable, très belle, très beau reportage. Merci, Steven.
Et
vive Mémoire plurielle. Tu les connais maintenant? À part une pièce, il y a des événements qui sont prévus?
Une des dames que vous avez entendue, elle a une association qui aide les mères qui ont un enfant en situation de handicap. Ouais. Et donc, il est prévu que je la retrouve pour faire une émission avec elle, justement, sur cette question de l'handicap chez les enfants et comment les parents aident leurs enfants dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, voilà, il y a ça qui se met en place. Après, il y a le Parlement de rue ou Mémoire plurielle. Dont Mémoire plurielle fait partie, donc ouais. On les retrouvera aussi sur ce projet-là. Et après, j'espère avoir d'autres projets avec eux, on ne sait jamais.
Hein. Et avec plaisir dans cette émission. En écoutant Tita, j'avais envie de vous passer cette musique que Tita et d'autres de la communauté, la formidable communauté chilienne d'Orléans, m'ont fait découvrir il y a quelques temps. Silence, émotion. Et d'ailleurs, la tendresse te va bien, mec. Oh.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Quelle grande voix, quelle grande chanson. Un des le plus gros succès, je pense, de Mercedes Sosa, chanteuse argentine. Et grande dame de la lutte contre les affreux dictateurs, là, vous savez, en Argentine, dans les années 60, fin des années 70. Et c'est un chant, je sais, qui fait beaucoup pleurer tous les latino-américains qui ont connu la dictature. Et dans des soirées, ouais, Mercedes Sosa passait énormément. Gracias a la vida, merci à la vie. Et merci à la vie, c'est peut-être aussi ce qu'elle... je crois qu'elle a dit dans un documentaire. Maryse Condé est décédée. Maryse Condé est une de mes autrices préférées. Enfin, elle a écrit des tas de choses très positives. Vous connaissiez
Non, du tout.
Maryse Condé.
De nom, c'est vrai que j'en avais entendu parler, notamment parce que France Fanon et compagnie.
Ouais,
et, mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais lu ses ouvrages et que c'est un peu une des autrices que je dois découvrir.
Oui, elle est décédée dans la nuit, là, je crois, et c'est annoncé ce matin, en tout cas. C'est une écrivaine, elle est journaliste, hein, elle est professeure de littérature. C'est une des premières femmes noires à avoir fait des grandes études, notamment à Hippocagne, à Fénelon, à Paris, vous voyez, mm-hmm. dans les années 30-40. Et elle est devenue professeure de littérature. Et elle a écrit, elle a beaucoup cherché son africanité. En tant que Antillaise, elle a vécu en Afrique, elle a épousé un Guinéen, d'où son nom Maryse Condé. Elle a donné des cours dans plein de pays africains. Et je voulais quand même, dans cette émission, vous passer un extrait d'un report, d'un documentaire sur elle que j'ai adoré. Elle a été très malade, hein, sur la fin de sa vie. Elle a eu un AVC et il y a plein de journalistes qui voulaient la suivre et lui faire un documentaire sur elle. Et en sortant de cet AVC, elle était professeure à Columbia, par exemple, University of Columbia, aux États-Unis. Elle dit à ces jeunes journalistes qu'elle a pris en affection, ben, vous allez me suivre et je vais vous raconter ma vie. Donc elle les a amenés à New York et pendant tout le voyage, il y a plein d'images. Je vous donnerai le titre tout à l'heure, je crois que je l'ai oublié à l'instant. En tout cas, le premier extrait de ce documentaire maintenant.
La langue dans laquelle j'écris n'est pas le français. N'est pas le créole, je le dis souvent. C'est une langue qui est la mienne. J'écris en Maryse Condé.
Je ne suis pas une Africaine puisque je suis une Guadeloupéenne. Je suis une femme noire, bien sûr, ça c'est évident. Je suis un écrivain, oui, aussi. Je suis une femme, une mère de famille, une femme qui travaille.
Marie, c'est le type même de ce qu'on appelle la matador antillaise. C'est une femme qui s'assume et qui ne demande rien à personne pour suivre la voie qu'elle s'est tracée.
Je suis née à Pointe-à-Pitre, dans la petite île de Guadeloupe. Mes parents étaient des gens aisés, il faut dire. C'était pas du tout des gens qui trimaient, parlaient vulgairement. C'est pas des gens qui nous privaient. Au contraire, on était très gâtés, très entourés. J'étais la huitième d'une grande famille nombreuse. J'avais trois sœurs, quatre frères. J'étais considérée vraiment comme un peu un imprévu dans ma famille. Je suis venue tard, puisque mon père avait 63 ans. On était en quelque sorte pas libre de faire n'importe quoi dehors. Il fallait aller avec une bonne, une da, comme on disait, ou une grande sœur, ou un grand frère. Ne pas se comporter mal, c'est-à-dire ne pas courir, ne pas injurier les gens, ne pas parler créole, la grande affaire. Et en fait, c'était une liberté très surveillée. Il ne fallait pas fréquenter les gens du dehors. Bien sûr, on ne fréquente pas les blancs. S'ils étaient noirs, trop illettrés, incultes, on ne les fréquentait pas non plus. Si c'était mulâtre, c'était des bâtards, on ne les fréquentait pas. Donc, en fait, on ne fréquentait personne. Personne n'était assez bien pour nous. La conscience d'appartenir au monde noir m'est venue quand j'étais à Paris. Des années plus tard, quand j'avais environ 16 ou 17 ans. Petite fille, je crois que des questions de couleur ne se posait pas du tout. J'ai commencé à rêver quand j'étais à Paris, adolescente. J'ai rêvé de faire une chose de ma vie, réaliser des choses positives, mais lesquelles ? Je viens à Fénelon quand j'ai fini passer mon bac, que je suis recrutée comme élève d'Hippocagne. Et j'aimais tout de suite à cause de la gentillesse, de l'accueil des élèves et des profs. On m'accueillait, on me faisait parler de la Guadeloupe. On voyait une enfant qui venait d'ailleurs, qui avait d'autres accents, qui avait une autre couleur de peau. Et je crois qu'on m'a considérée dès le départ comme étrangère. Et en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a appris à me valoriser comme différente. Alors que finalement, tout paraît assez, je ne dirais pas hostile, mais curieux. La petite ingresse, des observations à haute voix, quand j'allais chez les amis, les petits frères pleuraient. On était vraiment, vraiment des extraterrestres assez mal perçus. À l'époque, j'avais une camarade Françoise et c'est elle qui m'a introduite à Césaire, le discours sur le colonialisme et puis le cahier de retour pays-natal. Césaire, je ne connaissais pas. Elle me le révélait et subitement, j'ai compris que la couleur avait un sens, que être noir, c'était avoir un passé différent, des racines différentes et qu'il fallait maintenant essayer de comprendre d'où je sortais. J'ai lu aussi Fanon sans comprendre. Je l'ai haï parce que c'était pour un masque blanc que j'ai pas du tout compris, que j'ai pris comme un livre
de dénonciation des Antillais. Je n'ai pas vu qu'il y avait une analyse de une nation dont j'étais un exemple éclatant. César, on peut dire, c'est le retour spirituel à l'Afrique, le devoir de mémoire. Nous sommes tous d'origine africaine. Il n'y a ni Martiniquais, ni Guadeloupéens, ni Guyanais. Il n'y a que des Noirs qui viennent de l'Afrique. Fanon, au contraire, dit le nègre est une invention de l'Europe. S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas le monde blanc, nous sommes tous très différents. Et nous avons, chacun d'entre nous, des choses différentes à porter au monde. Donc finalement, il détruit le socle de la négritude, qui est l'identité commune des Noirs. Ce qui est marrant, je suis devenue tellement fanonienne que ça a en fait éclipsé tout le reste.
Je suis devenue tellement fanonienne que ça a éclipsé tout le reste.
Il ne faut pas
Marie-Lise Condé, partez en paix, madame. Vous avez fait votre part, vraiment, que la terre vous soit légère. Le reportage, le documentaire s'appelle Marie-Lise Condé, une voix singulière. Vous pouvez le trouver, je pense, sur YouTube, je pense. Mm-hmm. Allez regarder ça, parce que c'est un voyage avec elle qui est génial. Que vous conseillez de évidemment, Ségou, c'est le roman qui... le plus connu de cette dame. Il y a Moi, Tituba sorcière, qui est très bien, Noir de Salem. Mais allez voir, et puis lisez en tout cas. Marie Condé, t'avais eu une analyse à faire?
Déjà, rien que la première phrase, quand elle parle de sa langue à elle, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Chamoiseau, Césaire, Fanon. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'adore.
Force,
tu vois.
À cette force.
Là, dans ce que tu as cité, tu vois, dans l'extrait que tu nous as mis, il y a cette problématique chez les Noirs antillais qu'on retrouve souvent, tu vois. La question des mulâtres, la place des mulâtres dans la société, la place des noirs bourgeois aussi, la place des blancs, etc. Tout ça est bien hiérarchisé. Et aussi cette confrontation qu'ils ont quand ils arrivent en France. Fanon, il a eu la même chose.
Tout à fait.
Pour lui, il n'y avait pas de couleur. C'est quand il est arrivé en France qu'il a commencé à faire ses études et que là, on l'a pointé du doigt. Ouais, le nègre, ouais, le noir, machin de service. Et le monstre, c'est un mot qui revient souvent.
C'est ce qu'il disait quand j'allais chez des copines, leurs petits frères pleuraient.
C'est exactement ça, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils en prennent conscience. Et le fait qu'elle ait détesté Fanon au début.
Oui,
Sur peau noire, masque blanc, parce que. Une des analyses de Fanon, c'était de dire que ce masque blanc, en fait, c'est les Antillais qui l'ont porté, en fait. Ouais. Et donc c'est évidemment qu'on prend mal. Et le fait aussi que la construction nègre, la construction du nègre, évidemment que c'est une construction coloniale. Et Malcolm X en parlait aussi. Il expliquait justement tout le rapport qu'il y avait aux nègres et la volonté de le dépayser, de le déraciner, en fait. Parce que le nègre, ça... on dit le français, on dit le martiniquais, on dit le japonais. Il y a un attachement à une terre. Et en fait, le mot nègre, il enlève cet attachement à la terre. Et c'est ça, Malcolm X, il en parlait aussi très bien.
Exactement. En tout cas, j'étais assez content de passer cet extrait que je pensais qu'on n'aurait pas eu le temps, mais de passer cet extrait. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Marie-Lise Condé, allez regarder. De toute façon, on va en parler partout parce que cette dame était assez immense. Son œuvre est immense et restera. Merci d'être venu avec nous, Anaïs. À bientôt.
J'espère.
Avec un sujet... La porte est ouverte, tu sais bien, tu connais. Hein.
Je sais.
Bon, merci à vous, Victor, merci Steven.
Merci à toi, Hassan.
On va terminer cette émission. Et alors, pour la suite à Radio Campus Orléans, pas de Raidon ce soir, à Tours, les émissions de d'habitude, avec 21h du jazz. On va terminer cette émission avec du jazz, avec Ronnie Jordan, c'est un guitariste anglais. Ouais, il n'est pas américain, lui, il est anglais. C'est un des talents de ce qu'on appelle l'acid jazz, vous savez, dans les années 90. Mm-hmm. Et justement, dans les années 90, il reprend ce morceau immense de Miles Davis qui s'appelle So What. Ça te rappelle quelque chose, ça, ou pas? Mais bien sûr que ça te rappelle quelque chose. En tout cas, le gars, il sait jouer de la guitare, quoi. Passez une belle soirée, une belle semaine.
Ouais,
revenez mardi prochain, 19h.
Non,
les amis.
Dans 15 jours.
Non, dans la semaine prochaine, il y aura les amis du monde diplomatique. Toi, dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Passez une belle soirée sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours.